Donc bonjour à tous, je m'appelle Isabelle, mon nom de scène c'est Pollyanna, je fais de la folk rock, je suis auteur-compositeur, autrice-compositrice-interprète, pardon, en anglais, je ne sais plus parler le français du coup, et voilà, et donc je suis un petit peu, ce qu'il y a d'intéressant c'est que là tout ce qui a été dit avant finalement je vais pouvoir rebondir dessus, mais moi je suis un peu sous les radars. Mais je vis de ma musique et je m'épanouis même dedans, donc c'est peut-être, je pense que c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous expliquer un petit peu ça et comment avec l'autoproduction on peut répondre déjà à certaines questions avant d'arriver finalement dans les fonctionnements qui nous ont été décrits un petit peu plus tôt quoi. Donc pour vous en parler, déjà je voudrais évacuer cette histoire de Jean-Jacques Goldman. Ce que je dis c'est que l'autoproduction c'est quelque chose qui peut concerner un peu toutes les échelles en fait, tous les stades de développement en fait. Je pense que c'est très utile au tout début, ça peut être utile au milieu et ça peut permettre aussi de grandir. Et ce que je disais à Alexandra au cours de notre entretien téléphonique, c'est que il y a les grands noms, ils sont dans l'autoprod aussi d'une certaine façon. Voilà, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus nombreux et qui gèrent c'est la différence en fait entre je ne sais pas moi le boulanger du quartier et Paul, on m'a dit qu'il fallait dire Paul il n'y a pas longtemps. Enfin, je veux dire, entre une grande chaîne internationale, en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs échelles. On peut être une toute petite entreprise individuelle, on peut être aussi un plus gros projet. Et quand même, l'autoproduction peut être une réponse à seul ou à plusieurs aux questions qui se posent à nous. Parce que moi, je suis à peu près dans la même situation que vous. Voilà. Donc déjà, ce que je voulais commencer en fait mon petit exposé en vous demandant de réfléchir à ce que ça veut dire que le top, en fait. Parce que je pense que déjà, en fait, tout le cheminement qu'on fait en tant qu'artiste, il dépend des objectifs qu'on se fixe. Et je pense que déjà, le premier souci quand on est artiste, c'est d'essayer, c'est ce qui a été dit, parce que donc, visiblement, cette question se pose aussi plus tard dans le développement. Mais déjà, c'est savoir quels sont nos objectifs, quoi. Voilà, ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être célèbre? Est-ce qu'on veut avoir les moyens de faire la musique qu'on aime? Parce que par exemple on veut faire des beaux disques, est-ce qu'on veut faire des beaux concerts, est-ce que ce qui nous plaît c'est le cheminement qu'il y a dans cette activité là et le contact avec le public, parce que le contact avec le public ça peut être 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 100 000 personnes, c'est pas le même contact aussi. Faut voir, moi par exemple j'ai compris assez récemment que j'aime bien aussi les petits publics parce que je peux parler avec les gens et moi c'est ça qui me plaît aussi beaucoup. Je sais pas si j'avais énormément de succès, si j'aurais autant de satisfaction à faire ces concerts de cette façon là voilà, donc bon après de toute façon mon intervention a été titrée le choix de l'indépendance, je tiens à dire que c'est pas vraiment un choix non plus quand même, il faut le rappeler. C'est aussi parce que j'ai pas eu les partenaires à un moment que j'aurais désiré qui étaient là, mais par contre c'est un choix qui est contraint, mais par contre j'ai choisi moi de continuer et d'essayer de trouver les outils qui me permettent d'avancer même si j'avais pas ces partenaires là. Et je dois dire que si je devais refaire ce choix maintenant, peut-être que je ferais celui-là plus tôt. Voilà. Que je ne me serais pas acharnée pendant des années. Parce que quand on est dans un style qui est un petit peu hors mode, ou qu'on est toujours, on est trop jeune, après on est trop vieille, enfin en plus pour les filles, voilà, on n'est jamais là où il faut, bah finalement, l'autoproduction, c'est aussi une façon de répondre à ces enjeux-là et de contourner les obstacles, quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça a été évoqué, il y a un vrai problème, c'est un problème économique, c'est que quand on a un projet qui démarre, on ne génère pas beaucoup d'argent, et donc ça va être quand même difficile, je pense, à des partenaires, ça a été dit, hein, de se positionner sur nos projets, parce que tout bêtement, ils ne peuvent pas en vivre, quoi. Et qu'effectivement, on peut se reposer sur du bénévolat, et notre propre bénévolat, mais ça a forcément ses limites en termes de temps, parce qu'on ne peut pas demander à des gens de sacrifier leur vie au développement d'une carrière. Et donc là encore, en fait, le fait de se structurer, eh ben, ça permet de faire gagner du temps aux autres et de pouvoir un petit peu mieux distribuer ce qu'on va pouvoir déléguer à d'autres. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par monter une association avec des amis, parce que je ne peux pas être dans le bureau, parce que je suis intermittente. Et on a monté une association pour gérer les concerts. Et ensuite, 3 ans après ça, j'ai monté une structure pour faire label, édition photographique. Et le fait de faire ça, eh bien, ça permet déjà, moi, mon objectif, c'était vivre de ma musique et avoir un contact épanouissant avec le public. Donc le fait de monter ces structures-là m'a permis de baisser le ticket d'entrée, si vous voulez, pour atteindre cet objectif. Là, on a parlé de générer 4 300 € bruts pour avoir un manager. Bah, l'accès à l'intermittence, finalement, c'est 4 concerts à 200 balles par mois, enfin même un peu moins que ça. Donc vous voyez que là, d'un seul coup, ça devient plus accessible. Évidemment, si vous êtes un groupe de 3 ou 4, bah, c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc là aussi, il faut réfléchir. Est-ce que vous voulez rentrer dans l'intermittence? Est-ce que vous voulez avoir un travail à côté et puis faire de la musique en plus? Parce que justement, ce qui vous plaît, c'est d'avoir des moyens pour faire des beaux disques. Moi, j'ai des amis, c'est ça. Hein. Et pour faire ces beaux disques, bah, finalement, c'est plus intéressant pour eux de garder leur travail, de ne pas rentrer vraiment dans la professionnalisation et de juste pouvoir se garder du temps et de l'argent pour financer de la création. Voilà. Ensuite, c'est ça, il faut essayer d'être un petit peu honnête par rapport à soi-même, essayer de voir vraiment quels sont nos objectifs avant de se lancer. Ensuite, moi je dirais qu'il y a trois axes de développement pour un projet artistique, trois écosystèmes un petit peu différents qui communiquent les uns avec les autres. Donc pour moi, il y a... Il y a la voie directement, en fait, l'accès direct au public. Donc là, c'est un petit peu ce que j'ai décrit avec... Finalement, je m'assois. C'est un peu ce que j'ai décrit avec cette histoire d'accès à l'intermittence, je dirais l'accès le plus simple. Il y a une voie de développement, je vous invite à y réfléchir, ça n'a pas été trop évoqué jusque-là aujourd'hui, mais vous, dans vos projets, vous avez déjà un public autour de vous, vous avez des gens qui vous suivent, et il faudrait vraiment... Ça, je trouve que c'est important quand on se lance, de savoir à qui on s'adresse. Qui est déjà dans cette expérience avec vous et comment vous pouvez élargir ce public et puis ensuite essayer de voir jusqu'où vous avez besoin de l'élargir pour être content, quoi. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, moi, ma grande surprise dans ce cheminement, ça a été de me rendre compte que je pouvais atteindre finalement ce que je voulais beaucoup plus tôt que ce que je croyais. Je sais pas, est-ce que vous connaissez par exemple la théorie des 1000 fans? Vous avez entendu parler de ça? Oui? Il y a quelqu'un qui connaît? Oui, tu veux expliquer ou...
Si je dis pas de bêtises, en fait, c'est que si on a 1000 fans, on peut vivre de sa musique parce que en gros, ils sont prêts à acheter un t-shirt ou un CD ou faire un crowdfunding ou un truc comme ça, et qu'il n'a pas besoin d'en avoir 3 000.
Bah, c'est ça l'idée, oui. Alors ça, c'est le grand mantra de l'autoproduction à l'anglo-saxonne. Alors c'est un concept américain, donc les chiffres, ils ne sont pas directement transposables en France, hein, parce que moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est si vous avez 1000 personnes qui dépensent 100 € pour vous dans l'année, ça vous fait 100 000 € de recettes. Bon, 1000 personnes, 100 €, c'est beaucoup, mais comme je vous ai dit, en France, finalement, voilà, l'équilibre économique, c'est pas forcément celui-là. Souvent, il s'agit de faire vivre 2-3 personnes, 2-3 musiciens autour d'un projet, par exemple. Donc, vous avez 2-3 fois les 43 cachets à faire à l'année, et puis finalement, vous y arrivez. Et là, quand vous posez la question comme ça, vous vous rendez compte que ça, par exemple, c'est peut-être plus accessible que d'autres choses. Voilà. Et que par contre, ce qui vous manque, c'est une structure. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la structuration et tout, parce que c'est hyper fastidieux. Je cherchais un mot poli pour le dire. C'est hyper fastidieux et puis ça prend du temps. Mais ça, c'est vraiment une vraie solution pour rendre accessible déjà ce premier palier qui est de vivre de sa musique et qui après va vous donner de la confiance et du temps pour aller vers d'autres choses. Monter ces structures, ça vous permet aussi de profiter pleinement des dispositifs d'accompagnement. Parce que ça a été un petit peu dit en filigrane, mais c'est vrai que moi, j'ai fait des résidences qui m'ont pas servi à grand chose parce que c'était complètement isolé dans mon parcours. Je savais pas trop ce qu'il y avait avant, ce qu'il y avait après, et donc finalement on passe beaucoup de temps à essayer de démarcher des professionnels, et puis des fois on obtient des choses et puis finalement on n'en profite pas pleinement parce que c'est pas inscrit dans un chemin plus long. Donc ça m'amène au deuxième le deuxième axe de réflexion qu'on peut avoir en tant qu'artiste autoproduit ou même avec des partenaires autour de soi, c'est comment on s'insère dans une filière professionnelle. Ça, c'est vraiment ce dont on a le plus parlé cet après-midi. Tous ces dispositifs dont on a parlé, c'est des outils qui vous permettent d'avancer. Et il y a moyen aussi, quand on est autoproduit, d'utiliser les structures qu'on a créées pour faire des demandes de financement et avoir accès à des aides qui vont vous permettre de créer soit des spectacles, soit d'enregistrer un disque. les Hauts-de-France, il y a des dispositifs d'aide à l'enregistrement, il y a des dispositifs d'aide à l'émergence, vous avez le CNM aussi qui peut financer des choses, vous avez plein de guichets de financement. Par contre, c'est un assez gros travail de constituer ces dossiers et il faut encore une fois des structures pour s'appuyer dessus. Mais une fois que vous savez où vous allez et à qui vous vous adressez, si vous avez des projets soit ponctuels, soit à plus long terme, vous pouvez rentrer dans ces circuits-là. Et du coup, quand vous rentrez dans les programmes d'accompagnement, parce que ça n'a pas été dit, mais je crois pouvoir dire qu'assez souvent, les accompagnements que proposent les salles ne comprennent pas la rémunération des artistes, par exemple. Et vous, ça peut être une grosse surprise quand on est un groupe, quand on arrive, on se dit « Ouais, j'ai trouvé un super truc, un tremplin et tout », et puis on se rend compte qu'en fait, on ne sera pas payé, ou peut-être si on est à la finale. Je vois qu'il y a des gens qui voient de quoi je parle. Eh bien, c'est parce que aussi ces dispositifs, ils sont conçus pour qu'on aille, alors pas les tremplins, mais les résidences, pour qu'on aille chercher des financements à l'extérieur pour pouvoir justement prendre en charge les salaires ou diminuer le coût de prise en charge des salaires. Et donc, il y a plein de dispositifs financiers qui aident à faire ça. Et pour faire ça, il faut une structure. Et donc, là, je ne vous parle pas d'être célèbre et millionnaire, mais vraiment, au début de la chaîne, on a besoin, avec un peu d'organisation, on a accès à des moyens qui sont réels et qui permettent vraiment d'avancer et de durer sans être à la mode. Il y a plein d'artistes qui vivent de création comme ça, qui ne sont pas forcément très très connus. Il y a aussi plein d'artistes qui vivent complètement dans le système D. Ça, moi j'ai des amis qui vivent de leur musique en faisant que des concerts d'appartement. Et ça marche très bien, voilà. Ça marche très bien, ça correspond à ce qu'ils veulent eux. Ça fonctionne pas avec tous les styles de musique, mais il y a certaines formes artistiques, notamment la mienne, quand on fait de la chanson, que ce soit en français, en anglais, et dans des formations qui sont pas trop importantes, enfin, si on n'est pas 8, quoi, si jusqu'à 2, 3, finalement, il y a des tas de petits lieux alternatifs qui sont pas, qui vont pas être forcément sur la cartographie des musiques actuelles officielles, mais qui vont être des gens qui vont vous payer un petit peu, et puis si vous avez la structure derrière, vous pouvez générer des cachets avec ça, et ça peut vraiment consolider un départ de carrière ou compléter, parce que on peut avoir souvent ce qui se passe aussi, c'est qu'on a dans le temps et même dans l'espace, on a des contrastes dans nos activités. Même moi, il m'arrive de faire d'assez grandes scènes avec des concerts qui sont un vrai plateau bien payé, et puis en même temps, je vais avoir des tas de petits plans. Et finalement, être dans l'autoproduction, ça permet aussi de lisser ça permet de se projeter à 2-3 ans, de voir une année un peu plus creuse, si on a un peu de trésor, et finalement on peut peut-être se financer soi-même de la création. Enfin voilà, ça permet d'avoir aussi une maîtrise de l'emploi du temps. Je sais pas pour les gens qui sont dans ces tranches d'âge concernées, si on a un enfant une année par exemple, ça permet d'anticiper. Moi, ça a été tout un enjeu d'avoir mon indemnisation congé maternité alors que j'étais intermittente. En fait, le fait d'être dans l'autoproduction, c'est que c'est-à-dire que j'ai pu préparer ça, quoi. C'est-à-dire que comme je maîtrise à la fois mon calendrier de concerts et que j'avais un petit peu de trésorerie d'avance, etc., j'ai pu m'organiser pour vraiment avoir mes heures et pouvoir me protéger et protéger les gens autour de moi aussi d'une trop, trop grande précarité. Voilà. Et tout ça, c'est possible sans être connu. Et après, par contre, le troisième axe de développement, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'expliquerai. Après, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le-moi, ça me fera progresser. Évidemment, c'est celui auquel tout le monde pense, c'est le succès, quoi. Mais le problème, c'est que ça, ça se contrôle pas. Et je pense qu'il vaut mieux... Bon, moi, en tout cas, mon choix, ça a été de dire qu'il fallait essayer de trouver d'autres voies, parce que le succès, on voit bien qu'évidemment, il y a plein d'argent qui rentre. Après, bon, ça peut être compliqué de le répartir. Évidemment, ça ne dure pas non plus. Le succès, c'est pareil. Encore une fois, il y a des creux, il y a des creux de vagues, et pour les gens, pour les carrières de gens qui fonctionnent. Et ça, le succès commercial, disons qu'il s'appuie aussi sur beaucoup d'argent. C'est des budgets de promotion, c'est effectivement des équipes qui sont beaucoup plus étoffées, etc. Donc là, on est dans une autre échelle. Et par contre, tout cela communique entre eux. Tous ces trois axes, ils communiquent entre eux. Parce que finalement, comme je disais, quand on... quand on a beaucoup de moyens, on doit aussi employer des gens autour de soi. Donc on revient dans une forme d'autoproduction, vous voyez ce que je veux dire. Les circuits de filières professionnelles, etc., ils interviennent aussi. Si on a du succès, on va quand même demander des financements à la SCPP, par exemple, si vous voyez les sociétés de producteurs, ou la SPPF, parce que les disques de gens connus se financent avec des avantages, soit des avantages fiscaux, soit des aides, d'organismes professionnels comme cela. Donc on retombe quand même dans ces systèmes-là. Le premier axe, l'axe du contact direct avec le public, c'est aussi ça. Je pense que qu'on soit professionnel, qu'on ait du succès ou qu'on n'en ait pas, je pense que quand même, il faut qu'on revienne tous régulièrement à ça. C'est à qui on s'adresse, qui écoute notre musique et à qui on cherche à plaire, quoi. Voilà. Parce que aussi, on peut se perdre, comme on a beaucoup de besoins en tant qu'artiste, on a besoin de soutien, on peut parfois essayer trop de plaire, en fait, aux professionnels. Et on oublie que, quand même, dans les moments difficiles, je pense que moi, en tout cas, ce qui me permet de vraiment me retrouver un appui, c'est le public. Et ça, je pense que quand on est très connu, c'est quelque chose aussi qui est très important. C'est vraiment le contact direct avec le public. Et après, je suis bavarde, donc quand je suis lancée, j'y vais. Et le contact avec le public, on peut, même quand on n'est pas très connu, on peut le gérer aussi en direct, parce que maintenant, quand même, on vit à l'ère des réseaux sociaux et tout ça. Et ça, j'attire votre attention là-dessus. Avec les mailing lists et les réseaux sociaux, vous avez quand même des outils formidables que les générations qui nous ont précédés n'ont pas eu pour connaître votre public, savoir qui vous écoute, et essayer d'aller puiser là-dedans aussi de l'inspiration et de la force pour continuer, quoi. Voilà. Donc,
pardon, peut-être une question. Oui. Quelles sont les qualités requises pour être autonome, autoproduit ? Est-ce qu'il faut suivre des formations spécifiques pour réussir à jouer tous les rôles ?
Alors, je pense qu'on ne peut pas jouer tous les rôles. Effectivement, il faut sans doute une grosse capacité de travail et un côté un peu multitâche, mais on ne peut pas jouer tous les rôles. Donc, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est identifier les moments où on atteint ses limites pour déléguer quand on peut, là où c'est le plus judicieux. En revanche, sur les formations, il y en a de plus en plus. Moi, il m'arrive d'intervenir dans des cycles de formation professionnelle. Alors, souvent, ça s'adresse à des gens qui sont déjà intermittents ou en voie de l'être, ou déjà employés dans des plus grosses boîtes ou quoi. Mais moi, par exemple, j'ai suivi une formation d'aide à l'autoproduction de spectacles à l'école Atlas à Paris. C'était sur 2-3 semaines. C'était à peu près cette logique-là, juste sur le champ du spectacle. Après, j'ai suivi une formation un petit peu plus personnalisée de conseils à la structuration pour le côté label. Comme je disais, moi-même, je participe des fois à des cycles de formation. Il y en a, renseignez-vous. Moi, je ne sais pas. Au niveau régional, je sais qu'il y a des choses. Je ne sais pas, parce que moi, comme je suis arrivée dans la région il y a 5 ans et que j'étais déjà formée, je ne suis pas au courant forcément de ces programmes. Mais ça, par exemple, c'est quelque chose sur le site Haute Fidélité. Vous devez avoir des ressources là-dessus, quoi. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir les salles et leur demander aussi s'il y a des choses. Voilà, je pense qu'ici, par exemple, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble que les gens de la biscuiterie, ils savent où on peut trouver ce genre de formation si ça vous intéresse.
Et peut-être jusqu'où on peut aller dans l'autoproduction ?
Mais ça peut aller loin, comme je disais, parce que si on part après, une fois qu'on a des structures aussi, on peut signer des contrats avec d'autres structures. Et donc, en fait, ça permet aussi d'équilibrer les investissements et les prises de risques des uns et des autres. Par exemple, moi, mon label, qui est vraiment tout frais et à peine fonctionnel, je ne vais pas trop vous faire rêver avec ça pour l'instant, mais c'est tout nouveau. Mais quand même, je vois que déjà, je peux signer des contrats avec un distributeur. Je pourrais, par exemple, produire des disques à moi et puis après les signer en licence avec un label plus gros. Si à un moment, par exemple, mon projet grossit et que j'arrive pas à gérer, si on me propose 120 dates, par exemple, à l'étranger, je vais avoir du mal à continuer à faire mon administratif moi-même. Donc à un moment, il faudra... Voilà. Mais en fait, c'est le fait d'avoir ces structures-là, c'est qu'à chaque étape, on peut signer des espèces de contrats de collaboration, des partenariats avec d'autres structures. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est c'est que c'est super évolutif. Ça peut être utile très très tôt dans votre parcours pour consolider votre départ de carrière, et après, ça peut continuer à vous accompagner, je pense, à des degrés divers. Après, par contre, bah, plus on grossit et plus il faut faire rentrer des gens parce qu'il y a trop de travail, quoi. Voilà.
Vous dites que vous faites l'administratif vous-même, c'est-à-dire que tout ce qui est aussi démarchage commercial, promotion, vous gérez tout seul ?
Bah oui et non. Par exemple, je prends les services d'une attachée de presse sur mon disque, parce que ça, c'est pas possible. Moi, les réseaux sociaux, il y en a certains que j'aime bien, donc je les gère en direct. Je me suis un peu formée à ça aussi, hein, pendant le confinement, comme pas mal de gens. Et puis par contre, le démarchage, ben, moi, je fais mon démarchage moi-même, mais du coup, je suis quand même dans des réseaux. Je commence à avoir des contacts avec des salles et des centres culturels qui commencent à me faire confiance sur des projets un peu plus amples. Mais sur ce qui est mon projet d'auteur-compositeur-interprète, je suis sur ce réseau assez informel, mais qui est très très riche. Et j'ajoute un intérêt pour moi, enfin, un truc que je trouve assez enthousiasmant pour moi, c'est qu'il est aussi international. Et donc Enfin, aller jouer à l'étranger, par exemple, il y a deux façons. Il y a la voie par le haut, mais il y a la voie par le bas, si je puis dire aussi. Il y a aussi tout ce qui est à petite échelle. On peut déjà faire plein de trucs qui ressemblent quand même à notre rêve d'ado d'être en haut de l'affiche, d'avoir des... Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je fais mon démarchage toute seule, mais dans ces réseaux-là. Sinon, là, je finis juste... Sinon, il faut vraiment prendre quelqu'un aussi qui s'occupe de la diffusion. Ça, j'y pense aussi. Voilà, on essaie de mettre des choses en place. Et aussi, on peut s'associer avec d'autres artistes qui sont dans des problématiques similaires. Ça, je vous encourage à le faire, parce que ça, c'est quand même vachement bien. Excuse-moi.
On parle du côté positif.
Oui.
Moi, je vais te poser une question. Oui. Tu es seule à tout gérer ?
Non, je suis pas seule à tout gérer. Ce que je dis, je délègue.
Il y a des moments où, quand même, ça doit être plutôt difficile. Enfin, quand il y a des... Si tu t'es autoproduite, c'est parce que tu as eu beaucoup de négatifs ou des personnes...
Non. Je dirais pas négatif, c'est pas ça. C'est que je me suis rendu compte que je perdais pas énorme. Enfin, les partenaires auxquels j'ai eu accès, si je puis dire ça comme ça, dans mon esthétique, c'est-à-dire la folk indé, ils étaient aussi fragiles que moi, quoi. C'est ça que je veux dire. Et que du coup, je me suis rendu compte que à chaque fois que je sortais un disque ou à chaque fois que je relançais une phase de mon projet, eh bien, je devais repartir à la chasse aux partenaires. Et que comme on est dans une économie qui est quand même assez dans mon esthétique musicale, à la fois ça représente pas beaucoup d'argent, et en plus en France c'est pas forcément très structuré, parce qu'il y a des fois il y a des vagues effectivement de mode autour de ces styles de musique là, mais franchement le train il passe pas souvent et il y a pas beaucoup de place dedans, donc qu'est-ce qu'on fait si on a raté le bus, quoi. Voilà, donc j'ai monté des structures parce que à un moment... Au départ, c'était pour m'associer en fait avec d'autres structures, mais sauf que je me suis rendu compte que je pouvais, jusque-là, j'arrive à absorber beaucoup de mes questions à peu près seule. Là, je commence à atteindre vraiment les limites, mais depuis un an, on va dire. Voilà. Oui.
Est-ce que tu as déjà vu un décalage entre ce que des professionnels ont pu te dire et ce que tu as constaté du public, justement, parce que tu sois seule finalement?
Non, mais personne ne m'a jamais dit que c'était nul ce que je faisais. Hein. C'est pas. C'est plus. Oui, ça, on me l'a dit. Moi, j'ai eu un rendez-vous chez un DA Universal il y a une vingtaine d'années qui m'a dit: ouais, c'est super ce que tu fais, mais l'anglophone, on fait pas.
Ouais, ça intéressera pas ou personne.
Bah, non, mais il n'y a pas les circuits, en fait. Ouais. Des fois, il n'y a pas. Maintenant, ça a changé, hein, d'ailleurs, cette histoire-là. Mais maintenant, j'ai plus le même âge, quoi. Donc, c'est un peu le problème. Mais c'est-à-dire qu'il y a des histoires de... C'est des histoires de structuration aussi des réseaux, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ça a été dit un petit peu en filigrane par les gens qui m'ont précédé, mais c'est-à-dire on cherche aussi quand même des choses à certains moments donnés qui rentrent dans une logique, dans un tableau plus grand, quoi. Et des fois, soit on n'est pas la bonne personne au bon moment, avec la bonne chanson, soit on pourrait être cette personne, mais on est plusieurs et il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc après, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Je veux dire, si vous voulez pas abandonner la musique, ben il reste la solution que je vous décris là, voilà. Mais après, je peux pas vraiment dire que j'ai reçu des retours négatifs. Moi, j'ai plus rencontré des gens qui auraient voulu m'aider et qui n'avaient pas les outils à ce moment-là pour m'aider, quoi. Voilà. Bon, après, on peut râler, on peut dire qu'ils sont de mauvaise foi et tout ça, j'en sais rien. J'ai une petite idée pour certains, mais je ne vais pas donner de nom ici, voilà.
C'est vrai qu'on se dit que c'est un secteur assez concurrentiel. Pourtant, l'entraide existe entre artistes, et tu l'as constaté.
Ah oui, mais c'est à la fois très concurrentiel et en même temps, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, je veux dire, faut quand même... les gens ne sont pas obligés d'acheter qu'un seul disque dans l'année. Enfin, pensez à ça, quoi. Et on peut aussi dire qu'il faut amener plus de musique à plus de gens. Et si on élargit le marché, bah, il y aura plus de place pour tout le monde.
Et en plus, franchement, dans le cas des personnes moi, ça m'arrive souvent d'accueillir chez moi des musiciens, par exemple, qui viennent de Toulouse ou de Brest, et je leur prête mon canal parce qu'ils font une date à Reims, et eux, après, ils peuvent me trouver un plan chez eux aussi.
Bah, c'est ça, moi, c'est ça que je fais, hein.
Ou tu vois, si t'as pas un plan, tu peux pas le faire parce que t'as un plan, ou parce que tu vois, t'en répètes, je sais pas quoi. Tu sais très bien qui appeler, qui a besoin d'heures en ce moment, par exemple, ou qui va correspondre à l'esthétique de ce lieu-là, et tu peux très bien aussi aider des gens, par exemple, qui n'ont pas encore leur intermittence. Avoir plus de dates parce que tu sais où ils pourraient démarcher. Enfin,
c'est ça.
Je trouve que ça, c'est hyper important à ce stade-là. En fait.
C'est ça, et tu peux développer ça et devenir toi-même une professionnelle de la musique en partant de là. Il y a aussi autre chose, moi je viens un peu d'une culture folk-rock, quoi. Et il y a quelque chose aussi dans les pays qui nous entourent ou les États-Unis plus loin, et ben, en fait, il faut quand même voir qu'il y a des scènes entières et il y a des succès énormes qui se sont construits. Comme ça, quoi. Voilà, c'est aussi. Faut revenir aussi à ce que c'est que la musique, encore une fois, le plaisir qu'on prend à jouer, les choses qu'on veut, les émotions qu'on veut faire passer à travers notre création, et qui ça touche, et ça, c'est vraiment la base, et tout le reste, c'est de l'organisation. En fonction du système dans lequel on est, de notre milieu social, notre réseau social, et puis effectivement de tous les outils de la filière professionnelle auxquels on a accès. Mais il faut voir qu'il y a des pays où il n'y a pas du tout ces outils-là, où il n'y a pas vraiment d'accompagnement, et les gens, ils font quand même ils font des carrières, hein, ils font même peut-être d'une certaine façon les pays qui produisent le plus la musique qu'on écoute, c'est pas forcément les pays où il y a le plus de structuration. Hein, donc, voilà.
D'autres questions ?
Moi, je trouve que la limite qu'il y a ce système, parce que je fonctionne aussi comme ça, et il y a beaucoup d'avantages. La limite, c'est de confronter de plus en plus à des lieux qui travaillent avec des accompagnants, des managers, et toi, tu n'accèdes pas à certaines scènes qui sont réservées à une diffusion qui passe par un manager, un tourneur, ou on est bloqué à un certain niveau.
Je sais pas de quoi tu parles, parce que je te crois, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais mon expérience, c'est que j'ai vu...
Pardon ? C'est même pas la peine, tu vois.
Ouais, mais c'est pas de l'accompagnement, le festival, si je ne m'abuse, qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est des
tourneurs. Ben non, mais c'est surtout une diffusion, en fait. Là, c'est une logique de diffusion, c'est trouver des dates. Quand je parle de structures accompagnantes, je pense à des salles qui peuvent proposer des résidences, je pense à des dispositifs comme ceux qui ont été décrits plus tôt. Moi, j'ai plus vu de portes s'ouvrir que se fermer avec le cheminement que j'ai eu. Donc, je voulais juste vous donner un petit peu d'espoir, moi. Alors, j'espère que... voilà, et j'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, j'espère que ça
n'a pas découragé certains, quand même, de se lancer tout seul dans l'entreprise de l'autoproduction. Mais il faut rassurer, c'est-à-dire que c'est pas que chronophage. Alors évidemment, il doit y avoir des périodes où c'est difficile parce que il y a de l'administratif.
Oui, mais c'est marrant, c'est vous qui me posez la question. Puis tout à l'heure, moi, j'ai pas insisté là-dessus. J'ai insisté sur toute la liberté que ça me donnait, même si ça me prend beaucoup de temps. Et vraiment, il faut voir ça aussi. Et le temps qu'on passe à démarcher des professionnels des fois, alors que on n'est pas à l'endroit du spectre où on va les intéresser, ça, vraiment, ce temps-là, si vous le passez à vous structurer vous-même, peut-être que ce sera plus porteur. Au final. Voilà. Et après, ce que je peux vous dire...
C'est vrai qu'on a toujours l'impression que les portes vont pas s'ouvrir, alors que tu as l'air de dire que finalement, les acteurs de cette filière sont assez ouverts, en fait, aux échanges et...
En fait, ça dépend quelle porte. Il faut taper aux bonnes portes au bon moment, quoi. Voilà. Moi, pendant longtemps, quand je dis longtemps, c'est vraiment longtemps. C'est peut-être 15 ans. J'ai râlé en disant, ouais, on me donne jamais rien, je suis complètement en dehors des réseaux et tout. Et puis là, finalement, j'arrive à mener des projets d'une façon... Alors quand je dis des projets, c'est soit au sein de cet écosystème dont on a parlé, ou, je répète, dans tout ce gloubi-boulga de café-concert, de concert d'appartement, de tiers-lieux, vous avez... En fait, il y a toujours un... Quand il y a une tendance, la tendance inverse, elle arrive aussi. Hein. Je ne suis pas bouddhiste, mais il y a un truc comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que parce que les festivals sont de plus en plus grands et sont de plus en plus discriminants au sens anglais du terme, c'est-à-dire sélectif, quoi, eh ben, vous avez aussi, moi je trouve, je constate, un développement des lieux atypiques qui, leur problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vous embaucher en direct, souvent, mais par contre, vous avez un vrai vivier de lieux où vous pouvez rencontrer des gens, où vous faire un public, et vous avez en plus des réseaux sociaux, quoi. C'est quand même, c'est chronophage les réseaux sociaux, mais vous pouvez rester en contact gratuitement avec vos fans. C'est un truc, c'était beaucoup plus compliqué, je pense, c'est pas forcément une période que j'ai connue, mais j'imagine que dans les années 80, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Voilà, quand on devait envoyer des flyers par la poste, non mais vous vous rendez compte de ça, quoi. Donc on a quand même une chance, voilà, on est à la fois, on n'a pas de chance d'arriver à un moment où tout est en crise et c'est la cata et tout le monde a peur et tout, et en même temps on a la chance d'arriver à un moment où le ticket d'entrée, il est assez bas. Songez qu'il y a 20-25 ans, produire un disque, c'était impossible avec des fonds individuels parce que ça coûtait trop cher, ça coûtait le prix d'une maison. Maintenant, ça coûte le prix d'une voiture, voilà, donc c'est aussi un avantage, quoi, voilà.